tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope. C'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Cela n'a pas pu vous échapper. Nous avons pris il y a peu une décision collective. Près de 49 millions de citoyens et de citoyennes ont les 10 et 24 avril dernier été appelés à voter à l'élection présidentielle. Une décision plus ou moins réfléchie selon les individus. Il n'existe pas, pour le moment, de telles élections auprès des sociétés animales, mais que ce soit des guêpes, des fourmis, des termites ou des poissons, ce sont des espèces qui sont capables de réfléchir en collectivité et de prendre des décisions. Dans le cadre du cycle de conférences « Sciences étonnantes » donné au Muséum d'Histoire naturelle de Nantes Métropole, nous avons pu poser quelques questions à Guy Thérolaz suite à sa conférence « Les intelligences collectives » donnée au Muséum. Un décryptage sur ses recherches, les interactions de sociétés d'animaux comme des poissons ou des fourmis qui peuvent collectivement résoudre des problèmes ou prendre des décisions. Nous aurons ensuite dans l'émission une chronique de Julie pour sa première au Labo des Savoirs qui nous parlera des décisions collectives encore, mais chez un animal que l'on connaît bien, qui est l'humain. Bonne écoute au Labo des Savoirs. Guy Thérolaz, bonjour. Vous êtes éthologue, donc vous étudiez le comportement animal et directeur de recherche CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale, le CRCA, à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Vos recherches portent notamment sur les comportements collectifs des sociétés animales et les phénomènes d'intelligence collective également chez l'homme. Et depuis 20 ans, au moins, vous travaillez également à la conception de nouvelles techniques inspirées des comportements des insectes sociaux en informatique et en robotique. Et on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Mais avant tout, parlons animaux. On a déjà eu l'occasion de voir, en vrai ou parfois dans des documentaires, voire dans des zoos, d'impressionnants comportements de groupe chez des animaux, que ce soit les vols en nuée des oiseaux ou les bancs de poissons. Et la première question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que ces animaux arrivent à se coordonner alors que ce sont vraiment des systèmes qui nous semblent très grands et très complexes?
Alors c'est la question en fait fondamentale qui nous occupe, c'est-à-dire de vraiment comprendre comment ces systèmes vivants arrivent à s'organiser et à se coordonner en fait. Ce sont des choses qu'on voit pas uniquement chez les insectes sociaux, dans les sociétés animales, mais qu'on voit également, par exemple, votre corps est constitué de cellules. En fait, nous sommes des sociétés de cellules, et donc il faut que tout puisse fonctionner, donc se coordonner. Et bien sûr, chaque cellule n'a pas d'information sur ce qui se passe ailleurs dans votre corps. Donc, pourtant, quand même, il y a quelque chose qui se passe, et il y a donc un organisme qui arrive à se constituer à partir de toutes ces cellules. Donc, il faut voir un peu les sociétés animales comme des sortes de super-organismes. D'ailleurs, c'est un terme qu'on utilise pour désigner les sociétés d'insectes de plus en plus maintenant. Parce qu'on retrouve en fait beaucoup de phénomènes qu'on retrouve à l'échelle d'un organisme. Les sociétés se développent, il y a des sexuées, elles se reproduisent, il y a une division du travail, comme dans notre corps. Et donc, du coup, on a fait l'analogie au départ. Et de plus en plus, on considère qu'effectivement, les sociétés insectes sont vraiment des super-organismes. Alors la question, c'est vraiment de comprendre quelles sont les interactions, puisque tout, finalement, repose sur ces interactions sociales, qui vont permettre aux organismes d'échanger de l'information et donc de coordonner leur comportement.
Et je crois que vous utilisez un terme à ce sujet qui est la stigmergie pour expliquer le comportement et la coordination de ces comportements.
Alors, il y a plusieurs formes d'interaction. Il y a des interactions directes, par exemple des étourneaux dans un vol, dans une nuée d'oiseaux, par exemple, interagissent essentiellement avec la vision, de même que les poissons. Même si les poissons ont également d'autres sources d'informations, notamment la ligne latérale sur le corps, qui leur permettent d'avoir des informations sur des ondes de pression. Et on a aussi une autre forme d'interaction qui n'est pas directe, qui est indirecte, qui est en laissant des traces dans l'environnement. C'est ce que font les fourmis, c'est ce que font également beaucoup d'insectes sociaux, donc ils modifient l'environnement. Donc ils créent des structures, et ces structures en retour vont aussi affecter le comportement des autres individus qui vont y répondre de manière spécifique. Ce qu'on appelle la stigmergie, c'est un terme qui a été créé par Pierre-Paul Grasset, qui est un zoologiste donc qui est mort en 1985, mais qui a fait un énorme travail. C'est lui qui est à l'origine du traité de biologie. Il est également à l'origine d'un monumental traité sur les termites qui s'appelle Termitologia. Et donc il a créé ce terme à partir des mots grecs ergon qui signifie travail et stigma qui signifie piqûre. Donc c'est l'incitation en fait par un stimuli. Et donc l'exemple classique, c'est la fourmi qui dépose des pistes de phéromones, donc des substances chimiques qui vont affecter ensuite le comportement des autres individus. Et les autres individus vont pouvoir se servir de cette information, de cette trace qui a été laissée par une autre fourmi, par exemple, pour découvrir une sorte de nourriture.
Alors, chez les fourmis, ce sont des traces donc, qui sont découvertes par la suite par d'autres fourmis pour donner justement l'indication de la nourriture, dans quel sens aller. Mais, par exemple, chez les bancs de poissons ou chez les oiseaux, on voit vraiment un mouvement coordonné, mais en simultané, vraiment presque de façon instantanée et immédiate. Comment est-ce que ces informations arrivent à circuler entre tous ces membres de ces bancs collectivement ?
Parce que justement, ils ont sélectionné des formes d'interaction qui sont essentiellement de l'alignement, de l'attraction et de la répulsion. Et surtout, ils ont, au cours de l'évolution, si vous voulez, l'intensité avec laquelle les animaux vont s'imiter va faire que collectivement, on va avoir ce type de propriété. C'est-à-dire que l'information circule très rapidement. Je vais en parler un petit peu ce soir dans ma conférence. Ce qu'on appelle des états critiques. Et ce sont justement ces interactions. C'est quelque chose aussi qui vient de la physique. La physique s'intéresse beaucoup au comportement collectif, la physique des systèmes complexes. Et on a découvert effectivement ces propriétés donc dans le vivant. Donc, c'est-à-dire qu'une toute petite perturbation dans un banc de poissons ou dans une volée d'oiseaux, un oiseau qui détecte un prédateur, change brusquement son comportement, c'est-à-dire cesse de s'aligner ou d'être attiré de la même façon qu'il était auparavant avec les autres. Et cette petite perturbation va se propager presque instantanément à l'échelle du groupe. Ce qui fait que le groupe dans son ensemble, c'est vraiment un super organisme, puisque grâce à ces interactions, on a une propagation presque instantanée de l'information qui affecte l'ensemble du groupe, qui peut changer de comportement collectif.
Oui, on peut deviner déjà des similitudes avec la physique. Vous avez parlé presque du chaos, finalement, une perturbation qui pourrait engendrer une modification du comportement.
C'est pas exactement le chaos, c'est plutôt les transitions de phase.
Et j'y venais justement, parce que ça m'y a fait penser, la transition de phase. Vous avez parlé de points critiques. Est-ce qu'on pourrait presque comparer finalement ces bancs à un fluide qui passerait d'un état liquide à un état solide ou gazeux?
Tout à fait, c'est un peu... Alors c'est pas les mêmes phases qu'on trouve, plusieurs phases, on trouve essentiellement trois phases, des phases de moulin, où le groupe fait des boules ou des sortes de vortex, des phases d'alignement où le groupe est tout aligné, et des phases au contraire d'essaim, qui ressemble par exemple quand vous voyez un vol de moucherons. On est typiquement dans cette phase là où les individus sont attirés les uns avec les autres, mais en même temps sans véritablement être très 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 coordonnés, ce qu'on appelle des déplacements en essaim. Donc il y a ces trois phases, et puis il y a des phases, il y a des zones dans lesquelles se situent précisément donc les bancs de poissons, où le banc dans son ensemble peut présenter deux phases en même temps. Par exemple, la phase dessin et la phase orientée. la phase qu'on appelle du schooling. Et donc, il bascule régulièrement d'un état à l'autre, spontanément, c'est le hasard qui fait qu'il bascule, mais donc il est dans cet état-là, et lorsqu'il est dans cet état-là, eh bien, toute petite perturbation va se propager dans l'ensemble du banc et conduire à un changement automatique de phase. Donc il y a des analogies avec les systèmes physiques, c'est pas exactement la même chose, on est dans des systèmes biologiques, les interactions sont différentes. On n'est pas avec des particules, mais on est avec des organismes qui ont leur complexité, en tout cas une certaine forme de traitement de l'information à leur échelle, qui fait que bon, on peut utiliser le formalisme de la physique jusqu'à un certain point. Après, il faut l'adapter pour rendre compte des systèmes qu'on étudie, des systèmes vivants.
Et pour peut-être finir avec cette analogie avec la physique que je trouve vraiment fascinante, en physique, souvent, à l'échelle d'une particule, on a un certain niveau d'information, mais qui ne reflète pas comment un fluide ou comment un état de la matière peut se comporter. Est-ce que c'est pareil avec ces animaux et ces bancs et ces regroupements? C'est-à-dire qu'individuellement, il y a un certain comportement, mais qui est très différent, même en termes d'intelligence, de prise de décision, qui peut être très différent des décisions prises en groupe.
Oui, ben c'est exactement enfin, l'origine de l'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est pas simplement de l'agrégation, il y a un véritable traitement de l'information à travers ces interactions qui font que collectivement, le comportement collectif, il est très difficile de le déduire directement du comportement individuel. Et souvent, on est surpris parce que des comportements individuels très simples, notamment par exemple les fourmis qui construisent leur nid, sont capables de faire des formes, notamment des formes d'hélices par exemple, ou les termites font ça, qui ne sont pas du tout codées dans les règles de comportement et qui émergent précisément de la dynamique des interactions et en particulier de l'activité de remodelage constant du nid. Donc là, vraiment, il y a une rupture qualitative entre les règles de comportement qui sont relativement simples, les interactions sont relativement simples, et puis des dynamiques très complexes qui apparaissent à l'échelle du groupe, qui apparaissent justement comme résultat de cet ensemble d'interactions.
Et ce sont vraiment des comportements qui sont là de façon automatique, qui sont innés, et ce n'est pas un apprentissage au fil des années ou des mois?
Alors, il y a des comportements, effectivement, qui sont, on va dire, pré-câblés, mais on est quand même dans de la biologie, donc l'apprentissage est toujours là. Et d'ailleurs, l'apprentissage permet à des groupes de s'organiser. Par exemple, certaines colonies d'insectes, l'apprentissage joue un rôle très important dans la division du travail, dans la régulation de la division du travail, dans la différenciation des individus. Qui fait quoi, à quel moment et où, par exemple. Donc là, effectivement, on a besoin d'apprendre. Les abeilles, après, les fourmis, enfin, tous les organismes apprennent.
Oui, vous parlez même de la difficulté d'étudier un petit peu le vivant, car les interactions sont nombreuses, multiples et complexes. Alors, comment ça se passe concrètement, vous, dans votre laboratoire, quand vous cherchez à étudier le comportement collectif d'une espèce?
Alors, c'est le gros problème, parce qu'il faut toujours se trouver dans des situations où on ne va pas simplifier à outrance le phénomène qu'on étudie, mais on va quand même se placer dans des conditions où on va maintenir énormément de paramètres constants. Lumière, température, humidité. On sait que tous ces paramètres affectent le comportement, les sons également, donc on travaille souvent dans des environnements où il n'y a pas de vibrations, notamment chez les poissons. Une fois qu'on a fixé ces conditions, on va commencer à regarder ce qui se passe à l'échelle d'un individu. Comment il se déplace, comment il interagit avec son environnement physique, quel est son comportement spontané.
Individuellement, déjà?
Individuellement, tout seul. Et ça va nous permettre de quantifier, de modéliser le comportement spontané. Et en particulier, donc, la manière dont je vais interagir avec son environnement. Ensuite, on va étudier ce qui se passe avec deux individus. Donc, on met un autre individu, on regarde ce qui se passe, et là, on va étudier les interactions. Par exemple, chez les poissons, alors les poissons vont bien sûr interagir avec les bords de l'aquarium, mais aussi vont interagir entre eux. Et là, on va pouvoir, grâce au modèle qu'on a développé du comportement spontané, voir qu'est-ce qui change dans ce modèle de déplacement spontané. Par exemple, la manière dont ils changent leur vitesse en fonction de la position de l'autre poisson, de l'orientation de l'autre poisson, de l'orientation relative, de la vitesse relative, de la position relative. Et en accumulant des dizaines d'heures de déplacement sur deux poissons, et avec tout un ensemble de méthodes qu'on a mis au point, on va arriver à reconstruire les interactions entre les poissons. C'est-à-dire comment les poissons s'alignent ou s'attirent en fonction de la distance qui les sépare, en fonction de la de différents paramètres, par exemple l'orientation relative, la position relative. Donc, il y a des paramètres qui... Ça change, bien sûr, chez différentes espèces. Toutes les espèces n'ont pas les mêmes règles d'interaction. Hein. Et donc, c'est intéressant parce que, justement, après, on peut véritablement relier ce qui se passe à l'échelle individuelle et ce qu'on observe à l'échelle collective.
Et quand vous parlez de modèle, du coup, c'est vraiment... Vous parlez de modèle et de modélisation, c'est observer les comportements pour que si on rentre, par exemple, c'est une modélisation informatique, je suppose,
pas forcément. Mathématique. L'informatique est là, en fait, pour simuler des modèles mathématiques.
Et il suffit de rentrer des paramètres et on aurait une bonne estimation du comportement prévu.
En fait, on rentre les lois qu'on mesure.
Des lois.
On rentre les lois de comportement qu'on mesure, tout simplement.
Si deux poissons sont à telle distance, voilà, dans tel alignement...
Donc là, on a vraiment des lois très précises qui apparaissent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette méthodologie nous permet véritablement de caractériser les lois d'interaction sociale entre les poissons. Alors là, c'est l'étape deux poissons, et après, il y a l'étape X poissons.
X poissons, parce que deux, c'est bien, mais ce n'est pas assez.
C'est là que ça se complique. Parce que, bien sûr, on n'a pas accès à ce qui se passe dans la tête d'un poisson. Mais bon, ce que je vous raconte sur les poissons, on l'a aussi fait chez les insectes sociaux. Hein, puis on a aussi fait ça chez l'homme, également. Donc, et là, on est obligé de faire des hypothèses sur la manière dont les poissons ou les organismes combinent les interactions. Et les mesures qu'on va faire à l'échelle d'un groupe, par exemple, entre un groupe de 5, un groupe de 10, un groupe de 20, etc., on va pouvoir mesurer ce qui se passe dans ces groupes, et sous l'hypothèse qu'on va faire, puisqu'on connaît très précisément le comportement spontané et les interactions sociales, il ne nous manque plus qu'à déterminer la manière dont les interactions se combinent, et là on peut faire des hypothèses, qu'on va tester avec un modèle et on va confronter les résultats du modèle avec ce qu'on observe expérimentalement dans différentes tailles de groupe. Et ça va nous permettre d'éliminer des hypothèses et de converger vers celle qui est la plus probable.
On essaye, via ces modèles, d'anticiper, d'imaginer comment vont se comporter un groupe de fourmis et on voit si ça colle à ce qu'on voit.
À ce qu'on mesure.
À ce qu'on mesure.
Voilà.
Parce que la science, c'est une question de mesure aussi.
Tout à fait. Là, et on mesure très précisément, on a différents types, par exemple chez les poissons, on peut mesurer la polarisation, on peut mesurer l'interdistance, on peut mesurer la distance du barycentre du groupe à la paroi de l'aquarium, dans lequel on peut faire plein de mesures quantitatives, et généralement, il y a un seul modèle qui colle avec les mesures qu'on a fait sur différents groupes.
Et ça, vous l'avez fait chez les fourmis, je crois.
On l'a fait chez les fourmis, chez les guêpes, on a fait ça chez l'homme aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, chez les fourmis, dans plein de comportements différents, parce que c'est chez les insectes sociaux qu'on trouve en fait la plus grande diversité de phénomènes collectifs. Donc c'est une mine, les insectes sociaux, pour les phénomènes d'intelligence collective.
to help me raise the bar. Oh, move your face from mine. You blatantly cross the line. Pick me up so you can put me down. Expecting me to stick around.
Musicale prise sur une décision collective au Labo des Savoirs en compagnie de Aurora Di Reynes et Find My Way. Continuons maintenant à parler de société intelligente avec Guy Terolaz, éthologue et directeur de recherche CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Et parmi ces comportements sociaux, il y a l'organisation en société, avec des rôles qui sont très définis. On peut penser aux rennes et aux ouvriers, enfin les fourmis ouvrières, les abeilles ouvrières, qui sont bien différenciés. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une organisation vraiment très complexe au sein d'une société. Et vous l'avez dit, pour construire des nids qui évoluent, des nids gigantesques. Et vous avez notamment étudié les nids de fourmis et les nids de termites. Concrètement, dans le cas de la construction des nids de guêpes, chacune, vous m'avez expliqué qu'elles n'ont pas de perception, pas de plan dans leur tête de ce qui se passe, mais pourtant, collectivement, elles arrivent à construire ce nid. Comment est-ce que vous êtes parvenu à cette découverte, à cette conclusion ?
Eh bien, en regardant comment elles construisent leur nid, en étudiant précisément comment elles construisent leur nid. Alors bon, ça prend du temps, bien sûr. On a développé des techniques qui permettent de mesurer en fait le comportement. Bon, à l'époque, on faisait ça avec des caméras et on changeait la couleur du buvard avec lequel elles construisent leur nid, ce qui nous permettait vraiment d'avoir une dynamique, une vision de la dynamique. Et on peut, par exemple, mesurer très précisément la probabilité qu'a une guêpe de construire une nouvelle cellule en fonction des configurations de cellules déjà existantes. Et quand on regarde ça, on voit que c'est pas du tout aléatoire. C'est-à-dire que les guêpes choisissent, ou en tout cas elles sont stimulées à construire une nouvelle cellule dans certaines configurations, lorsqu'elles rencontrent certaines configurations de cellules. Donc on peut mesurer ces lois précisément, et qui nous disent par exemple que si la guêpe rencontre une structure où il y a deux murs adjacents avec la cellule qu'elle va construire, ou trois murs adjacents, ou quatre murs adjacents, je vais pouvoir mesurer une probabilité, et ensuite, avec un petit modèle, je vais pouvoir reproduire cette probabilité et suivre l'évolution de la structure qui est construite. Et comparer l'évolution de la structure qui est construite avec celle que j'observe, que je mesure dans mes expériences.
Donc ça veut dire qu'elles arrivent à suivre une espèce de règle, des règles
elles
de construction.
Elles ont en fait des règles très simples qui sont du style, si je rencontre telle structure, à ce moment-là je construis. Si je rencontre telle autre structure, je ne construis pas.
Ça veut dire qu'elles sont aussi capables de s'adapter. C'est pas juste un plan précis à exécuter.
Il n'y a que des règles, comme un jeu de Lego, on assemble. Et ces règles, alors qu'ils sont plus ou moins nombreuses selon les espèces, permettent de produire des nids. D'abord, ça permet de produire de la coordination, parce que chaque guêpe va pouvoir construire sans se soucier de ce que font les autres. Elle va simplement réagir à ce qu'elle perçoit, c'est exactement de la stigmergie, dont on parlait tout à l'heure, et elle va modifier l'environnement, donc elle va créer d'autres configurations, et certaines de ces configurations vont déclencher la construction d'une nouvelle cellule. Et toutes les guêpes sont sensibles aux mêmes configurations qui déclenchent le comportement de construction d'une nouvelle cellule. Donc on a un répertoire de configurations stimulantes qui est codé et qui permet à un groupe de guêpes de se coordonner à travers l'architecture qu'elles sont en train de construire.
Et c'est pour ça qu'il vous est aussi possible de modéliser ces comportements avec, avec ces règles.
C'est possible, parce qu'après, une fois qu'on a compris le processus, on peut le modéliser. Mais au départ, on l'a étudié en laboratoire. On l'a mesuré.
Et quels seraient les... Est-ce qu'il y a dans les rôles sociaux qui existent dans ces constructions, Denis, est-ce qu'il y a quand même des différenciations entre individus, entre bâtisseurs? Est-ce qu'il y en a qui ont des tâches plus importantes ou un répertoire de règles plus important?
Non, globalement, on a les mêmes règles. Une petite vingtaine de comportements différents. C'est pas énorme. Par contre, on peut avoir des spécialisations. Par exemple, chez les guêpes, on va avoir des individus qui vont se spécialiser dans la récolte d'eau, d'autres qui vont se spécialiser dans la récolte de pulpe, et d'autres qui vont se spécialiser dans la construction, avec des échanges de matériaux. Donc celles qui récoltent de l'eau vont les transférer l'eau à celles qui vont récolter de la pulpe, et puis celles qui vont récolter de la pulpe vont transférer la pulpe à celles qui construisent sur le nid, par exemple. Sauf que cette spécialisation va aussi dépendre de la taille de la colonie. Dans les petites colonies, on n'observe pas de spécialisation. Tout le monde est généraliste. Donc la guêpe va récolter de l'eau, puis de la pulpe, puis ensuite revient au nid, construit sa cellule. Puis quand la taille de la colonie augmente, à un moment donné, il y a un seuil brusque qui apparaît, où on voit apparaître des spécialistes. Et qui vont, par exemple, récolter avec des échanges de matériaux qui vont commencer entre les guêpes, par exemple. Et ça apparaît brutalement, et on peut comprendre. Parce que, en fait, chaque guêpe a son comportement est régi par un seuil de réponse qui détermine sa mise au travail quand elle va rencontrer les stimuli qui sont associés à la tâche à réaliser, par exemple, récolter de l'eau, construire. Et plus la guêpe s'engage dans une tâche particulière, plus elle devient sensible aux stimuli qui sont associés à cette tâche. Et comme le volume de tâches à réaliser est fini, les individus sont en compétition pour réaliser les tâches, ce qu'une guêpe fait, une autre ne va plus pouvoir le faire. Et donc, on va avoir une compétition pour réaliser les tâches, ce qui va entraîner une spécialisation automatique des individus, qui est déterminée par le seuil de réponse des individus et le coefficient d'apprentissage. Mais aussi, il y a un coefficient d'oubli. C'est-à-dire que si la guêpe ne réalise pas une tâche pendant un certain temps, son seuil de réponse va augmenter. Et du coup, elle va devenir de moins en moins sensible aux stimuli auxquels elle s'était spécialisée. Et puis, elle va donc se déspécialiser.
Et c'est fascinant parce que c'est vraiment, on a le même comportement en tant qu'humain de oublier au fur et à mesure qu'on se spécialise, par exemple dans des études scientifiques, plus on se spécialise et finalement peut-être plus qu'on oublie les premières années de fac, le lycée, surtout si on ne pratique pas.
Moi j'oublie pas.
Vous n'avez pas oublié. Vous êtes la super abeille, la super fourmi. Mais voilà, c'est un comportement vraiment fascinant. Il y a une complexification de cette société à partir d'un point critique à nouveau.
Voilà, ce sont en fait des mécanismes très simples qui, quand le nombre d'individus augmente, automatiquement on passe d'un mode d'organisation à un autre, sans que les abeilles ou les guêpes aient besoin de changer pour autant leur comportement. Les règles restent identiques, mais par contre elles font que collectivement on va observer, à cause de ces interactions, là ce sont des interactions indirectes, hein, puisque c'est à travers le travail qu'elles exécutent qu'elles vont interagir, on va avoir des brusques changements dans l'organisation de la colonie.
Et c'est vraiment des changements collectifs spontanés ou il y a une espèce de grand bâtisseur général qui va redispatcher, qui va rediriger
tel endroit. C'est vraiment spontané. Il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas de coordinateur. Ce sont des processus qu'on appelle les processus d'auto-organisation. La société s'auto-organise grâce à ces processus qui obéissent aux mêmes logiques, c'est-à-dire qu'on a à la fois une combinaison d'amplification, par exemple la piste de phéromone. Plus la piste est marquée, plus les fourmis circulent sur la piste et plus elles la marquent elles-mêmes. Et puis en parallèle, on a des phénomènes, des processus, ce qu'on appelle des feedbacks négatifs, qui eux ne sont pas codés dans le comportement, mais par exemple résultent de pures contraintes physiques, comme dans le cas de la piste de phéromone, c'est l'évaporation, la durée de vie de la phéromone. Et ce couplage entre les deux, par exemple chez les guêpes, c'est l'apprentissage et l'oubli. L'apprentissage génère un feedback positif, l'oubli génère un feedback négatif. Et le couplage entre ces deux feedbacks positifs et feedbacks négatifs donne naissance aux propriétés qu'on va observer, à l'organisation de la colonie chez les guêpes et à la formation d'un réseau de pistes, par exemple chez les fourmis.
C'est vraiment fascinant, cette façon d'intelligence qui auto-émerge et qui évolue en fonction même du nombre d'individus. On a observé aussi des comportements parfois un petit peu étonnants, avec l'utilisation chez les fourmis de ponts, des espèces de ponts vivants où elles se structurent et on a vraiment un pont de fourmis qui se fait pour pouvoir passer, qui est utilisé pour passer des obstacles et rejoindre notamment la nourriture ou le nid en cas d'intempéries. On a vu des individus qui se regroupent spontanément autour d'une source de nourriture. Elles ont forcément du coup dû communiquer pour faire passer cette information. Comment est-ce qu'elles, par quels moyens est-ce qu'elles font ? C'est vraiment des traces, des phéromones pour pouvoir communiquer de façon aussi efficace ? Est-ce que c'est comme ça qu'elles arrivent à travailler ensemble, par la communication ?
Là encore, on revient à la question de base, c'est-à-dire c'est essentiellement grâce aux interactions directes ou indirectes, à travers donc des pistes, par exemple, ou des marques qu'on laisse sur le sol, ou des éléments matériels, par exemple dans le cas des fourmis, des éléments de construction, qui vont affecter le comportement de chaque individu. Dans le cas des fourmis qui construisent leur pont, ce sont des contacts directs, et c'est l'intensité du flux, c'est-à-dire que les individus s'agrippent les uns avec les autres. Il y a plein de phénomènes comme ça, qu'on appelle de l'auto-assemblage. Les insectes sociaux font ça énormément. Donc, dans la construction du nid, par exemple, chez les fourmis tirotisserandes, elles forment des chaînes qui leur permettent de rapprocher des feuilles. Les fourmis de feu au Texas s'agrègent pour former des radeaux vivants en cas d'inondation. Les abeilles japonaises forment des boules d'agrégation pour lutter contre les frelons. Elles forment des fours vivants.
Simplement, elles sont autour du frelon.
Voilà, elles s'agglomèrent autour du frelon. Elles font vibrer leurs muscles à l'air et elles créent une température de l'ordre de 48 degrés qui est létale pour le frelon. 47 degrés qui est létale pour le frelon, mais qui n'est pas létale pour l'abeille, qui, elle, meurt à 49-50 degrés. Donc, elle forme des fours vivants par agglomération des corps.
De façon collective, elle décide de se former autour de ça de façon quasiment instantanée, j'imagine. Voilà,
absolument. Alors là, il y a des phéromones qui interviennent, qui font qu'on a ces phénomènes d'agrégation. Et ensuite, une fois que les abeilles sont agrégées les unes avec les autres, elles font marcher leur muscles à l'air pour développer cette température.
Donc il y a vraiment chaque espèce a son propre comportement presque, propre intelligence.
Chaque espèce a ses lois propres, mais la logique globale reste la même. On a vraiment partout des feedbacks positifs, des feedbacks négatifs, qui créent justement ces processus d'auto-organisation. Quelque chose qu'on trouve d'ailleurs à toutes les échelles du vivant, y compris chez l'homme d'ailleurs. C'est ça qu'il faut retenir en fait. C'est aussi ces grandes logiques qu'on va retrouver et qui dépassent les caractères propres des lois de comportement qui sont propres à chaque espèce.
Alors vous avez étudié des poissons, des bancs de poissons, de comportement collectif. On a des nuées d'oiseaux. Nous avons les insectes avec des guêpes. Vous m'avez parlé de guêpes, d'abeilles, de fourmis, de termites. Et tout ça, est-ce que c'est modélisé de la même façon ? Ou est-ce qu'il faut à chaque fois revenir à un modèle différent pour chaque espèce ou pour chaque sous-espèce de fourmis ou de termites, par exemple ?
Le modèle nous permet de faire le lien entre le comportement, les interactions à l'échelle individuelle et les dynamiques qu'on observe à l'échelle collective. Donc à chaque fois, bien sûr, ce sont des modèles différents qui vont répondre à certaines logiques qu'on va ensuite dégager. Mais bien sûr, à chaque fois, les lois sont différentes, les mécanismes sont différents, les comportements sont différents, et donc les modèles sont différents. On a des modèles, ça peut être des modèles spatiaux, ou des modèles temporels, ou des modèles où la structure 3D est importante, notamment par exemple dans la construction des nids. C'est important de pouvoir modéliser, par exemple, chaque boulette de terre avec lequel les fourmis construisent leur nid et la phéromone qui est implémentée dans ces boulettes. Les guêpes, pareil, c'est important de développer un modèle qui ait du sens par rapport aux lois qu'on mesure. On ne va pas faire un modèle où on va représenter les pattes d'une fourmi, les six pattes d'une fourmi, les antennes, etc. Ça n'a pas de sens par rapport à la question qu'on se pose. On va faire un modèle qui va avoir du sens et qui va nous permettre justement de concrétiser les lois, on va dire, importantes, qui sont importantes pour comprendre le phénomène qu'on étudie. C'est important toujours de bien choisir le niveau de description. Par exemple, quand on fait de la physique du billard, on ne va pas s'intéresser à la dynamique des quarks. Parce qu'à l'échelle où on s'intéresse, l'échelle du phénomène, ça n'a pas d'intérêt. Et donc les modèles qu'on développe, justement, ce sont des modèles qui nous permettent de comprendre le lien entre l'organisme, le comportement individuel, les interactions, et la manière dont les interactions affectent le comportement, et les dynamiques collectives qu'on observe, qui peuvent être de plein de choses, des déplacements collectifs, des phénomènes de coordination, des phénomènes de division du travail, des phénomènes de développement, des phénomènes de synchronisation. Tout l'éventail des comportements collectifs qu'on observe dans la nature.
Ça dénote vraiment la complexité vraiment des comportements du vivant. Et est-ce que ça peut être transposable, par exemple, à des petits robots? Est-ce que ce sont des comportements qu'on pourrait justement penser pour une nuée de petits robots, des choses plus artificielles?
Oui, mais ça, ce sont des choses qui ont été développées dès les années 80. Les roboticiens se sont confrontés à un problème qui est de construire des robots robustes dans des environnements complexes et imprédictibles. Et les techniques classiques qui étaient utilisées à l'époque étaient reposées sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la représentation, les modèles symboliques internes, la planification de séquences d'action. Toutes ces techniques se sont révélées infructueuses. En tout cas pour créer des robots autonomes. Et donc on sait, les roboticiens se sont beaucoup intéressés aux vivants, et il y en a beaucoup qui se sont intéressés en particulier aux insectes sociaux. Enfin, certains se sont intéressés aux insectes sociaux. Donc j'ai fait mon stage de post-doctorat dans un laboratoire de robotique en Californie, qui est un des pionniers qui s'intéressait à ces comportements collectifs, et comment on pouvait transférer certains modèles de comportements collectifs dans des robots, pour pouvoir d'abord effectivement reproduire déjà des comportements collectifs, par exemple de la coordination, de la différenciation, des choses relativement simples, mais des choses de manière autonome. C'est-à-dire que l'essaim de robot va pouvoir se coordonner et agir sans avoir besoin de celui qui l'a programmé.
Sans intervention
extérieure. Vraiment développer une certaine forme d'autonomie. Et donc, on a beaucoup travaillé dessus dans les années 90, et à partir de tous ces travaux, à la fois de la modélisation chez les insectes sociaux et aussi les tentatives donc d'appliquer des modèles de comportement collectif dans le domaine informatique, par exemple pour résoudre des problèmes d'optimisation, et également dans le domaine robotique, pour résoudre des problèmes de coordination. Tout ça a donné naissance à ce champ de recherche qu'on appelle l'intelligence en dessin, la swarm intelligence en anglais, qui a connu un développement faramineux, puisque maintenant, il y a des conférences tous les ans, il y a des groupes de recherche en informatique, en robotique, un peu partout dans le monde, qui s'intéressent à ces modèles. Et du coup, ça a permis de, aussi, en même temps, ça a donné un éclairage sur la biologie, et ça a incité énormément de gens à s'intéresser à ces phénomènes collectifs. Et donc de les aborder avec cette méthodologie qu'on avait développé dans les années 90.
Il y a notamment, je crois, l'algorithme de Fourmi. Donc c'est vraiment l'application d'un modèle du comportement de Fourmi qui peut être transposé du vivant à quelque chose de robotique.
Alors, pas exactement en robotique. Là, on est plutôt dans le domaine de la recherche opérationnelle. C'est-à-dire, il s'agit de trouver des solutions à des problèmes d'optimisation. Notamment le problème du voyageur de commerce, qui est en fait un problème classique, mais qui ouvre en fait tout un champ à d'autres problèmes d'optimisation. C'est-à-dire, le problème du voyageur de commerce consiste à trouver le chemin le plus court qui relie un ensemble de villes sans passer deux fois par la même ville. Et il se trouve que les fourmis font ça très bien. Enfin, elles font ça très bien jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand on va laisser des fourmis sur un réseau, elles vont l'explorer et puis, au bout d'un certain temps, elles vont marquer des voies, les utiliser et en abandonner d'autres. Donc c'est ça, en fait, c'est cette partie-là que les informaticiens ont conservée, c'est-à-dire le fait de pouvoir explorer un espace, trouver des bonnes solutions, marquer ces bonnes solutions et utiliser ces bonnes solutions pour influencer l'exploration ultérieure d'autres fourmis. Le problème, c'est que si on prend uniquement cette partie, si on transpose le modèle fourmi, pour résoudre les problèmes du voyageur de commerce, ça ne marche pas. Parce que les fourmis restent piégées dans des solutions sous-optimales. Et donc, pour lever ce problème, les informaticiens ont introduit deux règles complémentaires. D'une part, une mémoire des villes déjà visitées, ce que la fourmi n'a pas. Et d'autre part, une information de distance. Lorsqu'elle se trouve sur une ville, la fourmi sait exactement quelle est la distance des autres villes qui relient la ville qui sont reliées à la ville qu'elle occupe. Et en fait, son choix va être guidé à la fois par le fait qu'elle a visité la ville. Donc s'il a déjà visité la ville, donc elle ne va pas la revisiter une deuxième fois. Et ensuite, son choix va être guidé à la fois par la quantité de phéromones qui relie la ville sur laquelle elle est à la ville, aux autres villes qu'elle doit visiter, et la distance qui sépare la ville sur laquelle elle est des autres villes. Et c'est une balance de ces deux informations qui va déterminer le choix de la fourmi à aller d'une ville à une autre. Et une fois qu'elle a fait ça, donc elle a parcouru toutes les villes, la fourmi va revenir sur son chemin et elle va déposer de la phéromone, une quantité de phéromone qui va être inversement proportionnelle à la distance qu'elle a parcourue. C'est-à-dire que plus la distance qu'elle a parcourue sera petite, plus elle va déposer de phéromones. Et c'est ça qui va permettre de progressivement converger vers la solution optimale, puisque bien sûr dans le même temps il y a d'autres fourmis qui font la même chose, mais aussi la phéromone s'évapore. Et donc les solutions qui ne sont pas les solutions optimales vont progressivement s'évaporer et seule va subsister la solution optimale.
C'est une forme d'itération qu'on peut voir en mathématiques, en informatique.
Tout à fait.
Un modèle qui fait 10, 15, voilà. 20 fois.
Alors,
1000
on
fois.
Voit qu'on a conservé effectivement la logique de la sigmergie pour pouvoir exploiter les solutions qui sont construites collectivement et finalement ne pas exploiter celles qui sont pas optimales, mais en même temps on a rajouté des règles. Et dans tout ce domaine de la robotique en essaim, l'intelligence en essaim, effectivement on va conserver une partie de la logique du vivant et on va devoir l'adapter aux spécificités du domaine et des problématiques qu'on fait face. Par exemple, quand on a un essaim de drone, c'est pas exactement un banc de poissons, c'est pas exactement un vol d'oiseau, mais on va quand même pouvoir reproduire en partie la logique des interactions, la manière dont les interactions se combinent pour pouvoir coordonner et faire un essaim de drone autonome, par exemple.
D'accord, donc on est vraiment sur de l'optimisation de décisions autonomes pour des petits drones. J'imagine aussi peut-être qu'il y a des applications dans l'industrie ou dans d'autres domaines de ce genre d'applications.
On n'est pas dans de l'optimisation, on est plutôt dans de l'ingénierie.
L'ingénierie.
Là, on ne s'intéresse pas vraiment à comprendre le vivant. On retient du vivant ce qui nous intéresse et puis on va construire un système qui marche. Voilà, ça c'est de l'ingénierie.
Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de donner toutes ces billes à peut-être des systèmes autonomes qui peuvent prendre des décisions, j'imagine, de plus en plus pointues et de plus en plus complexes ? Est-ce qu'on ne va pas vers le soulèvement des robots, du coup ?
Il y a même des gens qui se sont préoccupés de ça, oui. Par exemple, Michael Crichton a écrit un livre qui s'appelle « La proie », qui décrit précisément des essaims de nanorobots qui échappent à leur concepteur, qui échappent au laboratoire et qui deviennent qui ont leur propre autonomie et qui vont comme ça chasser collectivement et tuer des gens, par exemple, adopter des formes. C'est assez spectaculaire dans son ouvrage. L'essaim de nanorobot peut même, par exemple, mimer la forme d'un personnage. Enfin bon, on va très, voilà. très loin.
Ça
on n'est pas du tout
inspiré.
Dans ce qu'on est capable de faire actuellement, mais effectivement le problème c'est de faire un système qui a un certain niveau d'autonomie et bien sûr de pouvoir trouver des systèmes de sécurité qui font que bon l'essaim reste quand même sous contrôle s'il y a un souci.
Alors si on peut parler vraiment d'intelligence collective pour des animaux, cela nous semble plutôt plausible, on va dire. Est-ce qu'on peut en dire de la même chose pour ces petites armées de drones ou de robots ? Est-ce qu'on pourra aussi, peut-être dès maintenant ou dans plusieurs années, parler d'une intelligence collective robotique ?
Mais oui, mais on parle déjà d'intelligence déjà. Collective en robotique, d'intelligence de robotique en essaim. Par exemple, donc il y a beaucoup de travaux qui se font notamment dans le domaine de l'agriculture pour faire coopérer des robots, dans le domaine également sous-marin pour pouvoir faire de la collecte auto-organisée de déchets grâce à des micro-robots qui peuvent également s'auto-assembler. Dans le domaine également médical, on est vraiment là aussi dans des nanorobots à l'échelle vraiment à l'échelle presque d'une cellule, même infracellulaire, donc où on va effectivement utiliser ces propriétés d'auto-organisation pour finalement créer de la complexité à partir d'éléments relativement simples pour délivrer des médicaments par exemple dans le corps, pour cibler des tumeurs. Enfin, il y a tout un ensemble de recherches dans cette direction. Et puis aussi, dans le domaine artistique, par exemple, pour créer des essaims de drones. Alors, actuellement, les drones qui sont utilisés sont tout est commandé de manière centralisée, avec des ordres qui sont donnés à chaque drone. Et on va vers des systèmes de drones, de dessins de drones, plus ou moins autonomes, qui pourront aussi créer comme ça des formes en 3D. Et puis il y a tout un domaine qui est le domaine du transport, puisque donc de plus en plus on réfléchit maintenant à des couloirs aériens spécifiques pour l'évolution donc de drones de transport, et il faut qu'à un moment donné ces drones puissent se coordonner sans qu'il y ait besoin d'avoir une armée de techniciens qui sont capables de suivre en fait chaque robot. Donc donner un certain niveau d'autonomie, utiliser ses capacités d'auto-organisation pour pouvoir fluidifier le trafic dans ces couloirs aériens et donc justement avoir des systèmes qui sont à un certain niveau assez autonomes.
Oui, un niveau d'intelligence du coup, voilà. En s'inspirant du comportement du vivant,
oui.
Comme on le fait très régulièrement en tant qu'humain. Voilà. Merci Guy Terolas d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
Merci à vous.
Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses.
Pour terminer cette plongée dans l'intelligence chez les sociétés animales, intéressons-nous avec Julie Emmerlin à celui que nous côtoyons le plus, l'humain.
Un dernier animal qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici et qui pourtant est un bel exemple d'intelligence collective, enfin pas toujours mais quand même, c'est l'humain. Et oui, qui n'a jamais travaillé en groupe, que ce soit dans ses études, son travail ou ses loisirs. Intelligence collective chez les humains, c'est un thème de recherche qui reçoit de plus en plus d'attention et qui pourtant est assez ancien. L'expérience emblématique dont on parle souvent remonte au début du XXe siècle. Pour vous planter le décor, on est ici en 1906, dans une foire rurale en Angleterre, un peu le salon de l'agriculture lié à un siècle. Un scientifique, Francis Galton, s'y rend avec une idée curieuse, montrer que la foule est bête. Il assiste alors à un concours où les gens doivent estimer le poids d'un bœuf. En analysant les réponses, surprise, la valeur médiane, c'est la valeur pour laquelle 50% des réponses sont en dessous et 50% sont au-dessus, était à 2 kg près à la bonne réponse. Incroyable, non ? Estimer le poids d'un bœuf, c'est chouette, mais est-ce que la foule peut nous aider dans d'autres activités ? Oui et non. En fait, l'intelligence collective, c'est un domaine qu'on appelle contexte dépendant. Ça veut dire que ce qui fonctionne dans certains contextes peut ne pas fonctionner pour d'autres. Là, en l'occurrence, une des conditions est de s'assurer de l'indépendance des opinions. De nos jours, c'est toujours cette idée de performance, de réponse correcte qui domine. En général, on regarde si un groupe fait mieux que le meilleur ou la meilleure d'entre nous sur une tâche ou une activité donnée. Et dans la vie de tous les jours, c'est assez utile d'avoir de meilleures réponses ou de prendre de meilleures décisions. Par exemple, dans le contexte médical, les diagnostics sont plus corrects, plus justes lorsqu'ils sont émis par des groupes de 2 ou 3 médecins que par un ou une médecin seul. Et ça fonctionnerait encore mieux quand les individus ont le même niveau de compétence et communiquent bien leur niveau de confiance dans leurs réponses. Alors 2 ou 3 humains qui discutent ensemble, ça peut être mieux qu'une personne seule. Mais pour aller plus loin dans l'inception, les études montrent même que la réponse de plusieurs groupes est meilleure que les réponses agrégées de plusieurs membres d'un groupe. Bref, il semblerait quand même, quand on est dans les bonnes conditions, qu'on ait vachement tendance à s'améliorer dans nos jugements quand on n'est pas seul. Et là, on est passé d'une personne seule à un groupe de groupes. Mais est-ce que plus on est, mieux c'est ? Pas tout à fait. L'intelligence collective, c'est un peu comme l'assaisonnement d'un plat, tout est dans le dosage. Il ne faut pas être trop peu dans un groupe, mais il ne faut pas être trop non plus. Malheureusement, pas de recette miracle à trouver sur Marmiton et qui fonctionnerait à tous les coups comme on pourrait le faire pour trouver la recette du cookie parfait. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se demanderaient si on peut simuler un groupe avec notre alter ego, se poser plusieurs fois la question à soi-même pour obtenir plusieurs réponses, ça ne fonctionne pas très bien. Et pour cause, on déroge à l'indépendance des réponses, condition nécessaire que j'ai évoquée au début de la chronique. Mais au-delà des simples résultats de performance, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres intérêts à décider en groupe ? Et si ! Les études montrent qu'il y a d'autres bénéfices à réfléchir et agir en groupe. Déjà, sur le plan social, on aime faire partie d'un groupe. Ça augmente notre estime de nous-mêmes et nous fait nous sentir bien. Mais quand on décide en groupe, on se partage aussi la responsabilité avec les autres, dans le bon sens du terme. Ce qui diminue les sentiments désagréables, comme le regret et le stress, qui peuvent accompagner les décisions difficiles et incertaines, comme dans le milieu médical. Avant de vous laisser pour aller préparer des cookies, j'aimerais remercier 2 personnes. Camille Acliffy, doctorante en sciences cognitives à la Haute Autorité de Santé et à l'Institut du Cerveau à Paris, qui a orienté mes lectures sur l'intelligence collective en contexte médical. Et Marwa Elzain, chercheuse en neurosciences cognitives sur la prise de décision collective à l'Institut Max Planck pour le développement humain à Berlin, pour avoir répondu à quelques questions sur le sujet et pour avoir relu ma chronique pour vérifier que je ne dis pas de bêtises.
C'est la fin de notre émission aujourd'hui. Merci à Guy Terolaz et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole pour avoir permis cette rencontre et cette interview. Merci et bravo à Julie Hermelin pour cette toute première chronique. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Yeah, this codeine got me tripping. Wish it was over, I've been rolling for a minute. I got the bra, she want the menage, decide to play. 68 Charger, ducking the laws, I might do the raid. I like to ride in my new bag, and I got a new bitch in my lap, counting up the blue strips with two straps. Yeah, yeah. Slide in the Lambo or slide in the Porsches. Check my garage, I got too many choices. Walk around, got a couple meals tucked in my bag. Stripper holes all in my rolls, shaking their ass. We just ran a tab up at Nobu. You say that you never got high, I'ma show you.
Zany boss, what's that door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my ass. So much money, I'll make you laugh. Hey, the bitches they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walk the roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping.
Sorrow, like there's no tomorrow, cause tonight might be your last. So stay up till sunrise, wipe the tears from your eyes, leave it in the past. The past, the past, the past, the past, leave it in the past. The past, the past, the past, the past.
Breakdancing boogie, my love. This is 1971. I crave that brain and that flesh. Cups of tea and gums that bleed red. Say you wrap the plastic in white. Say you single all of my life. Blackest skin disfigure my crimes. Credit cards and losing my mind. Piece by piece, they stitch me. Ain't no love, I'm still banging out with me. I can't cry for those who ain't with me. I can't pray, so Lord, please forgive me. Pink like pussy, extra pushy. Hands up off me, she's so lovely. Fame and fortune, all those habits. Pink and white, them panties matching.
I want you to stay forever. I want you to stay
forever.
I want you to stay forever. I want you to stay forever. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past.